France Culture.
Bonsoir Pierre Richard.
Bonsoir.
Troisième épisode de notre voyage à voix nue, la réinvention d'un personnage des caractères de La Bruyère. Alors Pierre Richard, on vous a quitté sur les Champs-Élysées en allant mesurer la longueur des queues devant le cinéma Concorde, aujourd'hui disparu, pour voir le Distrait. Et après le Distrait, il faut faire un deuxième film parce que le public vous réclame. Et qu'est-ce que ça va être, ce deuxième film ?
Bon, je ne sais pas si le public me réclame, mais c'est Yves Robert qui m'a dit « Dis donc, maintenant, il va falloir que tu te mettes au travail. Hein. » Parce que j'étais tout content, puis je n'ai pas pensé que j'allais enchaîner comme ça. Il m'a dit « Maintenant, il faut que tu te mettes au travail. » Donc, je n'avais pas encore pas pensé à un autre sujet, rien. Donc j'ai dû recommencer à zéro, à partir de là. D'ailleurs, justement, je pense que c'est là qu'il y a eu Topor, qu'il y a eu...
Mais oui, il y a Topor, bien sûr.
Il y a Topor, avec Ruellan.
Il y a Topor, Ruellan, Yves Robert et vous, je crois.
Ouais, ben voilà, ils ont profité pour s'y glisser.
Oui.
Au lieu d'Istrait, il m'a dit, t'as eu de la chance. Et je dis, pourquoi ? Il dit, parce que tu sais, ton film, toi, ton personnage, tous ceux qui sont distraits se disent, oh, il est comme moi. Et ça, c'est une chance, parce que il y en a beaucoup. Et tous ceux qui ne le sont pas se disent, oh, j'aurais bien aimé l'être, parce que c'est un joli défaut. Et donc, ça t'a plu à tout le monde, à ceux qui le sont et à ceux qui ne le sont pas. Enfin, bref, j'allais pas faire un deuxième Distrait d'eux. Hein. Et donc, j'ai pensé avec Ruellan, une fois de plus, c'est peut-être Topor. Après la pub, j'ai pensé au jeu télévisé, stupide et...
Et donc, comment on écrit à trois, là ? Parce que quand je vois les deux, là, André Ruellan et Topor, c'est pas des tristes figures, hein,
C'est un jour, Weber m'avait dit, tu te rends compte, des fois, je mets 2 ans pour écrire un scénario, Dieu sait qu'ils sont bons, mais qu'est-ce que je m'emmerde ? On parlait au téléphone du jeu, ou du rire, plutôt. C'est pour ça que j'ai jamais pris ce métier comme un travail. Parce que on commence par l'écriture. J'aime bien écrire à deux ou à trois, parce qu'on s'envoie des balles, parce qu'on joue au ping-pong, parce qu'on s'amuse. Et si on reste 6 heures devant un papier, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Et moi, des fois, je me souviens, dans la nuit, j'ai une idée, et j'ai dit, oh chouette, je suis pressé de le voir, mon copain, pour le faire rire et voir si ça, qu'est-ce qu'il en pense. Et il me dit, moi, c'est pareil. Duturon, avec qui j'ai écrit quand même 4 spectacles, écrire, ça devient un jeu. Qui commence par nous deux, ou nous trois, si on est trois, ou nous deux. Je m'amuse énormément à écrire un scénario, comme je m'amuse ensuite à le tourner avec les comédiens. Et finalement, j'ai passé ma vie à m'amuser. Alors quand on me parle de travail, alors maintenant, ça c'est mon style à moi. J'aimerais bien être De Niro, je sais pas, hein, c'est autre chose. Qui paraît-il rentrer dans son personnage avec énormément de travail intérieur. Moi, c'est du travail extérieur.
Moi, je pensais à Gaston Lagaffe. Il y a un côté, chez Pierre Richard, il y a un côté Gaston Lagaffe, mais aussi dans l'élégance et dans la légèreté. C'est-à-dire le dessin d'André Franquin, ça vous ressemble. Est-ce que d'ailleurs André Franquin vous a dessiné ?
Mais un jour, il m'a offert une assiette.
Ah voilà.
Avec moi.
Parce qu'il y a justement, il y a une parenté, je trouve. Parce que c'est un gros travailleur, Gaston Lagaffe. On pense toujours que c'est un garçon qui ne fait rien et qui dort, mais... Il passe son temps à travailler, à ranger ses dossiers.
Je crois qu'ils sont tous des gros travailleurs. Hein. Il y a le dessin, il y a ce qu'ils veulent exprimer avec ce dessin. Je ne pense pas qu'ils font ça comme ça sur le coin de la table et hop, c'est parti. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont... Souvent, on me dit, il paraît que souvent, ces gens sont même plutôt des pessimistes, des gens tristes. Ce n'était pas le cas de Topor, hein, en tout cas.
Vous pouvez me faire le rire de Topor ?
Son rire est bouffé par celui de Salvador. Ça, c'était Salvador, ça.
Oui, celui de Topor, il était un peu plus grave.
Mais il est plus grave.
Ouais.
Il était plus grave. C'est pour ça que je dis, me restez plutôt celui de Salvador.
Pierre Richard, donc, l'écriture de ce film. Alors, il commence d'ailleurs, il y a encore votre épouse qui fait la scène d'ouverture, Pauline.
Oui. Oui, parce qu'elle est passée de la danse à. Mais ensuite, elle s'est amusée, ça l'intéressait. De jouer la comédie, elle était bien d'ailleurs.
Et elle vous a accompagné dans quasiment tous les films de ce moment-là, les années 70-80.
Ouais. Oui. Ouais. Même le film que j'avais avec Zidi, où était prof de gym.
Oui. Alors justement, on va venir à ces épisodes-là. Quand on pense à ces, à ces cinéastes qui sont Claude Zidi, Francis Weber, comment ça se passe les rencontres avec eux et pourquoi parce qu'il y a des années où vous allez faire quasiment 5 films.
Je faisais 5 films, non. Si on met, surtout qu'à l'époque, on mettait 3 mois pour 4, faire un...
Oui.
Maintenant, on fait ça en 7 semaines, vite fait, parce qu'on vous retire toujours des semaines. Mais 5 films, moi je crois que j'en faisais 2.
74, 75, 76, là il y a une profusion de films, et puis de films qui sont des énormes succès, parce que Le Grand Blond...
Oui, Le Grand Blond, c'est un énorme succès.
J'aimerais qu'on parle d'ailleurs de... donc on a évoqué là, les malheurs d'Alfred, mais alors les malheurs d'Alfred, il y a aussi un immense acteur qui est dans ce film, qui est Pierre Bondy.
Oh oui, formidable. Tellement gentil en plus. Pierre Bondy, oui. J'adorais Pierre, mais ensuite, quand le film était fini, il partait, il travaillait tellement qu'il partait à droite, et moi je travaillais tellement, je partais à gauche. Et on ne s'est pas beaucoup retrouvé dans la vie. Je le regrette. D'autant plus qu'on avait une passion commune pour le jazz. Que j'ai appris après, en plus, c'est le comble, parce que sinon... Et on m'avait proposé un jour une pièce, mais alors j'étais tellement dans le cinéma à l'époque, mais qui était formidablement drôle, et j'ai dit non. Et même encore maintenant, j'y pense en me disant j'aurais dû dire oui. Travailler avec Pierre, c'était un...
C'est quoi la pièce ?
C'était une pièce américaine. C'était un peu du Woody Allen avant l'heure, puisque Woody Allen n'est pas encore connu.
Et quand vous faites Les Malheurs d'Alfred, vous avez aussi une rencontre qui est avec une actrice importante, puisqu'elle est, elle est aussi dans votre dernier film,
oui,
c'est Annie Dupéré.
Annie Dupéré, tellement belle, des yeux sublimes. Et Annie...
Et drôle.
Hein ?
Belle et drôle.
Et belle et drôle. Oui, parce que belle et drôle, des fois, c'est pas vrai. Ça va pas toujours ensemble. Elle était aussi belle que drôle ou aussi drôle que belle. Et elle avait évidemment un rôle formidable dans mon film. Et vous avez raison, les années ont passé. Et là, je lui ai demandé si elle voulait pas me jouer un rôle de participation dans mon dernier film, L'homme qui avait l'homme qui veut l'ours. Elle m'a dit oui, je suis tellement contente de ça. Elle m'a même dit, je lis pas. Tellement elle était ravie. Elle en a bavé en plus, hein. Parce que la scène où on tombe tous les deux dans le canal, il faisait pas si chaud que ça, on était mouillés, fallait se ressécher, on commence à retomber. Elle m'en a parlé dernièrement, elle m'a dit, voilà, j'en ai bavé avec toi. Et vous avez raison, elle et Bondy étaient formidables. J'ai eu la chance de les avoir tous les deux.
Et donc là, c'était une satire. Donc après la satire de la publicité, la satire de la télévision, des jeux télévisés, mais pas que, je veux dire aussi de l'instrumentalisation des speakerines, enfin, et autre chose, et aussi de la politique, puisque la province gronde.
Mais, ouais.
Mais après, il y a un troisième film, où alors là, on sent que vous vous replongez totalement dans les racines familiales.
Oui, c'était je sais rien, mais je dirais tout.
Voilà, alors dites-nous tout.
C'est vrai que là, j'ai retrouvé quelques images qui pouvaient ressembler à celles de mon enfance. Mon grand-père n'était pas un marchand d'armes. C'était les Assyries. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec les Assyries ? On en fait peut-être des canons.
On y contribue.
En tout cas, ils ne construisaient pas des canons. Mais en tout cas, là, Blié était marchand d'armes. On vivait dans un château. Mon oncle était un militaire. Mon autre oncle était un homme d'église.
Un archevêque, au moins.
Un archevêque, j'adorais, Jean Aubé. Effectivement, ça ressemble... Justement, je parlais de cette jeune fille avec laquelle on voulait absolument me marier et que j'ai promenée dans le parc et que j'ai poussée dans l'eau. C'était l'horreur. Enfin bref, tout ça fait partie quand même de même si c'est un peu lointain. Il y avait la grande grille avec la voiture de Blié qui passait, puis la petite porte avec moi, j'avais mon petit vélo moteur, je passais dans la petite porte avec le gardien. Oui, ça ressemblait quand même beaucoup à ma famille. Oui. Après, j'en ai fait un marchand d'armes avec tout ce que je... lesquels continuent de marchand d'armes à me révolter. Vous tuez des gens avec des armes, ils disent pas parce que je leur vends des armes que je leur demande de s'en servir. Ce qui est une grande hypocrisie. Si on vend des armes, c'est parce qu'on sait que les armes sont utilisées pour massacrer des gens. En ce moment, il n'y a qu'à voir les armes qui massacrent les villes ukrainiennes.
Pierre Richard, il y a une chanson dans ce film, qui est une chanson qui est chantée par un groupe qui va exploser après 1968, qui est le Big Bazar de Fugain. Vous vous souvenez de cette chanson ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et les paroles.
Allez, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est vrai que tout à coup, j'ai eu envie, parce que depuis le début de ma carrière de cinéma, ça a été, on l'appelle le Roumain avec...
avec Stéphane Le Rouge, oui.
On l'appelle le Roumain, vous voyez que je peux dire les noms maintenant. Vous
voyez qui je veux dire ? Vladimir Cauchemar.
Voilà, Cauchemar. J'ai eu envie de changer. J'ai eu envie tout à coup quand même de trouver d'autres musiciens qui pourraient m'apporter d'autres choses que dans le style musical. Et pourtant, je n'ai pas du tout à me plaindre de la musique de Roumain. Bon, ce n'est pas un homme pour lequel j'ai une énorme admiration pour l'homme, mais pour le musicien, oui, bien sûr. Et donc, bref, j'ai eu envie de changer. Et comme tout à coup, je me suis retrouvé, je ne sais plus dans quelles circonstances, avec Fugain, qui faisait le Big Bazar, je lui ai demandé de faire une chanson. Et je m'en suis bien trouvé. Et pour une fois, je me suis un peu, comme le fils qui se détache de son père, je me suis un peu détaché de Cosma.
Et de la chanson, vous vous souvenez des paroles ? Parce que c'est une chanson qui parle de... Et alors, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants, là ? Elle est très drôle, cette chanson, hein, je veux dire, j'invite nos auditeurs à la réécouter, parce que non, c'est vraiment une chanson qui raconte le film parfaitement. Parce que dans le film, vous avez aussi Louis Rego, vous avez toute une génération qui arrive aussi et qui est...
C'était la bande, ma bande, les petits gars.
Vos petits gars, oui.
Les petits gars.
On est très près des charlots de Zidi et Fechner.
Oui, sauf que le mien, il était quand même beaucoup plus, justement... beaucoup plus contestataire que les charlots qui sont comme ça, qui passaient pour faire des gags. Voilà, quand même, moi j'avais quand même un propos contestataire où on voit mon oncle, ils écoutaient les musiques de guerre, ils écoutaient les chars, tout ça, ils étaient en extase comme si c'était
au salon le dimanche, oui. Hein, oui. Au salon le dimanche, oui.
Voilà, le salon le dimanche, on écoutait les avions qui attaquent, tout ça. Il y avait un petit ours qui saignait tout à coup, je me souviens. Enfin oui, j'étais quand même très contestataire de la guerre. Je continue à l'être, sauf que j'ai débordé.
Mais vous aviez commencé très tôt, puisque je suis même pas sûr que vous ayez fait votre service militaire.
Non, j'étais réformé pour une inadaptation. Et ils avaient peur de me prendre parce que ça aurait pu être dangereux.
Mais dangereux pour qui ?
Dangereux pour mes camarades de combat. À l'époque, c'était la guerre d'Algérie, hein. Ouais. 36 mois.
Ouais.
C'est pas 12, hein. Il y avait 6 mois de préparation, puis après on allait... sur le Djebel pour aller taper sur les... pour aller tirer sur les... Enfin bref, j'ai toujours été contre la guerre. Mon plus beau rôle, c'était celui-là. On essayait de tous d'y échapper. Hein. Il y en a qui sont rentrés morts, il y en a qui sont rentrés traumatisés. Celui qui était... C'est pas évident, hein. Bon bref. Qui fait des économies, des gentils, et qui gaspille son argent, les méchants.
Qui c'est qui se retrouve devant les méchants? C'est comme un guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour quitter Atlantique. La même année que les malheurs d'Alfred. Vous faites un film qui reste très attaché même à votre figure même, qui est Le Grand Blond.
Mmh.
Hein, Le Grand Blond, ça arrive comment et pourquoi ça vous colle autant à la peau ?
J'en sais rien, moi.
La figure du distrait, la figure du Grand Blond.
Bah, j'en sais rien. C'est pas moi qui faut le demander.
Mais c'est vous qui choisissez.
Non, j'ai choisi. Si Yves Robert me dit « tu veux faire le... » Tu vas jouer le Grand Blond avec Béret d'Arc, je vais pas dire quoi, avec qui ? Je deviens fou. En plus, le scénario, il est écrit par Weber, co-écrit avec Yves, mais on sent bien qu'Yves Robert y a beaucoup mis sa patte. Les dialogues sont fantastiques. Ils sont toujours minimalistes, les dialogues de Weber. Ils font jamais plus de 4 lignes, hein, mais alors, ça tombe pile. Hein.
Oui, des situations.
Les situations. Donc, et les dialogues sont là pour rendre la situation encore plus évidente. Moi qui n'aime pas trop les dialogues de... Le premier jour où j'ai lu La Chèvre, je m'en souviens, sur une plage à Belle-Île, j'ai lu La Chèvre sur le sable. C'est rare qu'avec un scénar, je suis là. Il y a des scénarios drôles où on se dit, oh là là, va falloir que j'aille au charbon, là, parce que... Mais lui, ça tombe pile, hein. Il rend grâce à Weber. Après, c'est autre chose, mais... Bref, les grands blonds, oui. Vous me dites, mais oui, bien sûr que j'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. Avec Yves Robert, en plus. Mon maître. Bien sûr.
Et Jean Carmé.
Et Jean Carmé, avec qui déjà j'avais tourné. Il n'y avait que des fantastiques. De temps en temps, je le revois par hasard, parce que je fais un spectacle, des fois, on voit des passages. Mais c'est tellement drôle quand... Un jour, j'ai dit, avant de tourner, j'ai dit, Yves, présente-moi quand même Dark. J'ai dit, présente-moi Mireille. C'est quand même, c'est déjà une star. Bon, moi, je suis une star en devenir, mais il faut qu'on dîne ensemble un soir. Il me dit oui. Puis 15 jours avant, je lui dis, Dark, ne m'oublie pas qu'on dîne avec Mireille et moi, parce que quand même, c'est ma partenaire féminine. C'est quand même le seul métier dans la vie. On arrive sur un lieu et quelqu'un dit à la femme et à l'homme, voilà, tous les deux, mettez-vous au lit. Ça vaut le coup de se voir un petit peu avant quand même. On se met pas au lit comme ça, à brûle pour point avec une femme. Au moins qu'on dîne un peu avant, qu'on boive un verre. Bref, je lui dis, présente-la-moi. Et puis, il l'a jamais fait.
Sciemment.
Ouais. Et où je suis après. Et le jour du tournage, j'étais dans la loge, elle était pas là, j'étais voir le maquillage, j'étais pas là. Bref, on me l'a caché. Et quand on m'a dit ça, et on tourne, on m'a appelé. Moteur, puis j'ai monté les marches, j'ai sonné, et elle a ouvert la porte, et là, d'une beauté, en plus la voix, bonsoir. Jusque-là, j'ai tenu le coup, c'est quand elle s'est retournée. Alors là, j'ai craqué, je me souviens, j'ai pas pu sortir un mot, je fais, oui. Et puis, je lui dis, c'est charmant ici. Et je dis, en regardant ses fesses, non, c'est charmant ici. J'étais omnubilé par ses fesses. Et après, j'ai dit, t'es un enfoiré quand même. Il me dit, je voulais voir l'œil que t'avais pour la première fois que tu la vois. Je dis, Barbeau, tu fais confiance à mon talent de comédien, je vois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça s'est bien passé, le concert ? Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches d'eau.
C'est peut-être moi qui arrive trop tard.
Pas du tout. Je vous attendais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Champagne, whisky ? Cognac ?
Je veux bien un petit peu de champagne, mais c'est magnifique. Ici.
Oui, il y a de belles pièces.
Un piano girafe !
Ce n'est qu'une partie de la collection, le reste est dans la cave.
Dans la cave ?
On ira y jeter un coup d'œil tout à l'heure, si vous voulez.
Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle On aura tout vu, qui est un film de Georges Lautner, dans lequel vous jouez un amoureux transi qui va être conduit à réaliser un film qu'il n'a pas prévu de réaliser, puisque sa comédie romantique, plutôt son.
Politique aussi.
Son film poétique devient un film érotique.
Érotique.
Vous vous souvenez de ce film ?
Oui, bien sûr. Non, c'était un film politique, ce qui se veut justement, contestataire, tout ça. Et puis, je le confie à un producteur qui, 15 jours après, avec son sbire, qui s'appelait Junio.
Alors, le producteur, c'est Jean-Pierre Marielle. Hein,
oui, oui. C'est Jean-Pierre Marielle qui sublime. Comme moi, c'est un de mes acteurs fétiches. Et puis, Miu Miu, qui était craquante. Un petit bonbon anglais, sublimement craquante, c'était le cas de le dire. Et qui était ma femme, et puis qui tout à coup découvre que je vais tourner la vaginale, tant dire qu'elle n'est pas contente. Elle dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais le jouer. Alors là, c'est moi qui ne suis pas content, enfin bref. C'était très drôle, comme toujours avec Weber. Ça n'a pas autant marché que ça voulait, mais c'est forcé, quand on y repense. C'est que finalement, c'est pas tellement pour les enfants de 8 ans. Hein.
Pas tellement. Mais les productions Morlock, c'était quand même quelque chose. Et c'est la première apparition de Sabine Azéma au cinéma.
Aussi, qui était merveilleuse d'ailleurs. Et Guy Bé, qui était tellement drôle. Bon, voilà, le film est très drôle. Mais après, quand on y repense, il y avait quand même toute une partie du public qui dit « je vais pas y aller avec mon gosse ». Quoi. Parce qu'on parlait quand même pas mal de cul. Avec l'humour de Weber.
Et l'humour, quand même. Et l'humour du temps, qui était peut-être... Plus tolérant.
Ah oui. Hein? Maintenant, on pourrait même pas le faire.
Non, c'est sûr que non.
Hein? Maintenant, on pourrait même pas le faire.
avec une très belle réplique de Jean Luizzi, qui est « À genoux, escalope
oui. »,
qui est quand même une des répliques les plus sérieuses. Parce qu'il n'arrive pas à dire sa réplique et il est en tenue léopard.
Non, il disait à genoux, salope. Alors lui, oui. Dit, moi je lui dis, mais attends, dis pas salope. Hein, tu dis quoi? Est-ce que tu dis pas escalope? Non, je dis escalope. Ben voilà, alors vas-y, à genoux, escalope. Non, on n'en finit pas.
Alors il y a un film un petit peu plus tard qui est pour moi un de vos chefs-d'œuvre, qui est Le Jouet. Le Jouet, ça arrive comment dans votre vie? Parce que là, vous pouvez tout faire. Vous êtes producteur du film?
Oui.
Oui.
Avec Berry. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense que. Et j'ai quand même fait beaucoup de films que j'adore. La Chèvre, Les Gros Blancs, même. Mais je pense quand même que, comme toujours, cette fameuse phrase, « Alors, si vous êtes dans une île, vous me emmenez. » Je pense que ce serait le jouet. Pour deux, trois raisons. La première, sur le scénario, c'est que c'est un film vraiment grave, profond. C'est d'ailleurs très curieux chez Weber, parce que Weber, qui n'habite que dans des suites d'hôtels et des palais au bord de l'eau, tout à coup, se met à parler de la puissance de l'argent, le pouvoir de l'argent. Ça pourrait être un film de, je sais pas, d'un metteur en scène qui contestataire. Il a écrit ça, grave, profond. C'est l'image de Dassault. Hein, c'est Dassault.
C'est un hommage à Marcel Dassault, absolument. Hein? Oui, je dis c'est un hommage à Marcel
non,
Dassault.
Pas un hommage. Justement. Hein? Il a même copié les trucs de Marcel Dassault, hein, carrément.
Oui, parce qu'il a été journaliste à Jour de France, qui était le magazine de Marcel Dassault.
Et puis les rapports père-fils. Là, on y arrive, les rapports père-fils. C'est moi, justement, on en a parlé tout à l'heure avec propos de mon père. Ce fils hyper gâté qui vit dans des châteaux et tout, et qui se retrouve seul, et qui finalement se prend d'affection pour un pauvre, un paumé, comme moi dans le film, un journaliste chômeur, quoi. Donc, il parle de sujets graves, profonds, mais il a l'élégance de faire rire tout le temps. C'est ça qui est beau dans ce film. C'est qu'il a le talent, l'élégance, merci de nous parler de ça avec tout le temps un humour constant, avec cette légèreté, et j'adore ça. Le deuxième raison pour laquelle c'est un de mes films aussi préférés, j'ai eu cette chance de tourner avec Bouquet, et j'ai eu une énorme plaisir de tourner avec lui. Nous avons gardé ensuite, jusqu'à la fin de ses jours, une affection réciproque. Je me souviens, le premier jour, on a dîné tous les trois chez Weber. Weber voulait qu'on fasse connaissance, au fond. Il nous a invités dans sa maison à Neuilly. On était à table tous les trois. Et je crois que j'ai pas dit un mot de la soirée. Tellement j'étais comme un enfant. Je regardais Michel parler si intelligemment avec Weber. Michel pendant du théâtre, Michel pendant... Bref, je ne sais plus. Mais moi, je n'ai pas dit trois mots. Et puis, à la fin du repas, quand on s'est quitté, Weber nous a accompagnés jusque sur la rue, parce que sa maison était avec un petit chemin. Et sur la rue, j'ai dit au revoir, Michel, à bientôt. Et en partant, mon pied, ma chaussure s'est coincée dans une grille d'égout, mon escarpin, et je suis parti en chaussettes. Et là... J'ai quand même fait 3 mètres en chaussettes, et je me suis aperçu de ça. Mais j'ai dit, oh, ma chaussure. Me suis retourné vers E2 pour remettre ma chaussure. Et là, Bouquet est parti. Alors, avec ça. Eh bien, voyez, monsieur Richard, voyez, voilà une chose que vous faites merveilleusement, et je regrette de ne pas pouvoir faire. Il me faisait un compliment sur ça. Et à partir de là, la glace était rompue. J'ai tourné avec lui avec un plaisir fou. Et 10 ans après, quand on se rencontrait, on se serrait dans les bras, et je l'ai vu peu avant qu'il aille à l'hôpital, un souvenir qui me déchire. J'ai vu dans la coulisse et il m'a dit, tu vois Pierre, je ne verrai plus jouer au théâtre. J'ai dit, mais Michel, comment vous ne pouvez plus jouer au théâtre? C'est votre vie. Il dit, oui, je sais. J'y pense tous les jours. Mais je ne peux plus. C'est terrifiant, hein. Terrible. J'y pense tous les jours. Et je ne peux plus. Parce qu'il avait perte de mémoire et tout. Et bon, donc toutes ces raisons pour lesquelles le jouer, ben voilà. Et il y avait très très belle phrase en plus, dont je me souviendrai toujours. C'est Jacques François, que j'adorais, qui était au fond le factotum de Dassault. Et Bouquet lui dit, ça vous amuse, ça, puisqu'il s'occupait de des journaux, ça vous amuse de voir des femmes à demi-nues dans le... Mais monsieur, vous savez, ça se vend, hein. C'était Jour de France, ce truc-là. Pas demi-nues, mais assez... Ça vous amuse de moi, de trouver des femmes comme ça dans cette tenue. Mais monsieur, ah, ça vous amuse. Eh bien, retirez votre pantalon. Et il le connaît, je parle du personnage, je parle pas de Jacques-François. Il le connaît, il sait qu'il faut pas plaisanter. Et Jacques-François retire son pantalon à plein bureau. Et là, cette phrase de Weber, il y a Weber qui lui dit, maintenant je vais vous dire, monsieur, quel est le plus odieux de nous deux? Moi qui vous demande de retirer votre pantalon ou vous qui acceptez de le faire? C'est beau ça. Parce que ça, dans la vie, on retrouvera ça tout le temps.
Et en plus, quand on sait que tout ça est possible, est vrai.
Pas plausible, vrai. Et puis, il n'aimait pas les barbus.
Il n'aimait pas les barbus, il n'aimait pas les gens qui avaient des mains moites.
Moites, c'est tout ça dans le film. Hein.
Tout, oui.
Puisqu'il me dit, coupez-vous la barbe, monsieur Romain Cochet. Et puis, qui est une histoire vraie, justement, c'est que le balayeur de l'entrée du Jour de France était barbu. Mais quand la voiture de Dassault arrivait, le voiturier dit, attention, voilà Dassault. Et le balayeur barbu, vite se cachait dans l'armoire à balai, il attendait les pas, et puis ensuite il ressortait. Et un beau jour, il a fait ça, il s'est rendu. Vite, il s'est dépêché dans l'armoire à balai, et Dassault est venu directement à balai, il a ouvert la porte, il a dit, si vous croyez intelligent. Il s'est fait choper. Ah non, j'aime bien ce film.
Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites, Blénac?
Je me déshabille, monsieur le président.
Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu. Et vous faisiez le tour de la salle de rédaction.
C'est vous qui me l'avez demandé, monsieur le président.
J'ai une question importante à vous poser, Blénac. Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon, ou vous qui acceptez de montrer votre derrière?
Je ne sais pas, monsieur le président.
Tout le problème est là, je crois.
Eh bien, on va saluer Michel Bouquet, rhabiller Jacques-François, ranger notre jouet, et on va retrouver dès demain Francis Weber, Gérard Houry, Claude Zidi, Louis de Funès, Gérard Depardieu et Jean-Pierre Mocky, qui ont accompagné votre vie. Et puis vos voyages aussi, d'Amazonie. À demain, Pierre Richard.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Pierre Richard, réalisation Laurent Polleret, prise de son Romain Luquiens, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Alain Kruger disponible sur le site de France Culture.